Radio Starbucks.
Morning edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir nous emmène en Grèce où vous allez le voir, on recommence à trouver des offres d'emploi. Alors c'est bien le retour de la croissance? Oui, sur le papier peut-être, mais quand il s'agit d'être payé 3,50€ de l'heure, qu'en dites-vous? Juste avant, Florence Paracolo sous les radars avec notamment une chasse aux fake news étonnante en Italie. 18h50, Trump saison 2 avec Grégory Philips. On va appeler la Maison Blanche ensemble. Vous allez voir ce que dit le répondeur. C'est l'un des épisodes du shutdown en cours. 18h55, Jean-Marc Fou met le monde à l'envers, ou comment la réalité est moins simple que ce qu'on nous montre. On prend des nouvelles des Kurdes ce soir. Et tout de suite, imaginez ce que c'est quand plus de 25 000 personnes meurent en une année dans un seul pays. Ça se passe au Mexique. La guerre des cartels rend certaines zones inapprochables. Et on essaye de comprendre. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Mexico, después de haber enfrentado problemas con delincuencia organizada muy potente, de ser un problema de seguridad nacional o se ha trasladado a un tema de seguridad pública.
Procureur de Mexico qui parle de terribles problèmes de sécurité en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chiffres sont totalement hallucinants. Le Mexique a enregistré, tenez-vous bien, 25 339 homicides pour l'année 2017. 23 339, c'est donc une guerre, cette vague de violence qui a fait cette année au plus de morts que on n'en avait jamais enregistré. Une guerre liée au cartel et au trafic de drogue. L'état le plus touché, c'est l'état du Guerrero sur la côte Pacifique. Vous savez tous où c'est. C'est là que se trouve notamment la station balnéaire d'Acapulco. Comme ça, ça vous permet de situer plus ou moins les choses. Bonsoir Jean Rivelois.
Bonsoir.
Vous êtes chargé d'études à l'IRD, l'Institut de Recherche de Développement. Qu'est-ce qui fait que cette année, parce qu'on ne découvre pas les cartels mexicains, ni les trafics de drogue au Mexique, qu'est-ce qui fait que cette année a été particulièrement meurtrière? Qu'est-ce qui se passe pour que les cartels soient entrés dans cette guerre hallucinante?
Une des premières raisons pour lesquelles le nombre de morts est aussi important cette année, c'est que beaucoup de cartels ont été décapités, si je puis dire, c'est-à-dire que leurs chefs ont été emprisonnés et donc ils se sont fragmentés. Chaque sous-cartel possède son territoire et veut empiéter sur le territoire du voisin pour l'étendre. Et donc, ça aboutit à des guerres entre fratricides, entre différents groupes criminels qui débordent malheureusement sur la société civile.
Alors, ça veut dire que, du coup, des têtes ont pu tomber, mais au final, c'est quoi? C'est une victoire à la Pyrrhus pour les autorités mexicaines?
Exactement, oui. Ce n'est pas une victoire du tout, parce que le trafic continue, les cartels se sont diversifiés, c'est-à-dire qu'ils n'opèrent plus uniquement dans le trafic de drogue, mais également dans les extorsions, dans les demandes de rançon, ils pratiquent la torture vis-à-vis des personnes qu'ils interceptent, les éliminations physiques évidemment, et donc tout ça fait qu'il y a un climat d'instabilité non seulement sociale, mais qui devient de plus en plus une instabilité politique qui atteint la légitimité des gouvernants.
Alors on va y venir. Pourquoi l'état du Guerrero? D'abord, est-ce qu'on parle de trafic ou de transit à cet endroit-là? Alors, ou les deux, mon capitaine?
Malheureusement, le capitaine dit qu'il y a les deux. L'état du Guerrero est un état qui reçoit la cocaïne qui vient de l'Amérique andine, qui fait une halte, là, donc, qui est stockée dans l'état du Guerrero avant d'être acheminée vers les États-Unis. Et l'état du Guerrero est également un état producteur de marijuana et de pavot, donc, pour faire de l'héroïne, mais également de méthamphétamine qui alimente non seulement le marché américain, mais également le marché national et notamment la ville de Mexico, 20 millions d'habitants, qui est évidemment le principal marché national de la drogue.
Parce que le sentiment que ça laisse quand je vous écoute, c'est que en gros, quand on dérange pas leur trafic, ils ne bougent pas et ça se passe en bonne intelligence. Et j'y mets beaucoup de guillemets, y compris avec les autorités locales et les autorités de l'État. Mais dès qu'un tiers intervient, c'est terminé. Tout le monde se met dessus, en gros.
Non, ça se passait en bonne entente, en bonne coopération, dirons-nous. Jusqu'en 2007, où a été engagée la guerre contre la drogue au Mexique par l'ex-président Calderón. Et en 2007, il y a donc eu ce qu'on appelle une rupture de pacte. C'est-à-dire que, alors qu'auparavant, il y avait une entente entre les politiques au niveau national, plus les responsables institutionnels au niveau local et régional, et donc les groupes criminels, cette entente a été rompue, ce pacte a été rompu, et donc la guerre a été déclarée. L'État a déclaré la guerre aux narcos en 2007, les narcos ont déclaré la guerre à l'État en 2010, et depuis, c'est une spirale de violence qui se développe dans tout le pays.
Disons les choses clairement, ça pèse combien le trafic de drogue au Mexique? Est-ce que c'est vraiment aussi lourd que ça en a l'air quand on regarde ces chiffres ou pas?
Alors, le trafic de drogue constitue effectivement on pourrait appeler ça une rente économique illégale qui pèse aux alentours, d'après les spécialistes, entre 30 milliards de dollars et 53 milliards de dollars par an.
Ce qui est,
ça rapporte.
C'est ça, ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup. Mais attendez, c'est quoi? C'est si on compte dans l'économie locale, allons-y franchement, c'est 10% de l'économie mexicaine, c'est 8%,
non,
c'est
7, 8, tu vois. Non, on reste dans des chiffres qui sont de l'ordre de entre 3 et 5% du PIB, mais ça représente énormément d'argent, et notamment pour les banques, parce qu'il faut blanchir cet argent. Mais également, il ne faut pas l'oublier, une partie de cet argent va à l'entretien des communautés locales et va dans les salaires des personnels qui travaillent pour les narcotrafiquants.
Ça veut dire que tout le monde arrose tout le monde.
Il faut voir les cartels, si vous voulez, il faut les voir comme des entreprises. Ce sont des entreprises illégales, criminelles, mais ce sont des entreprises qui génèrent des profits, qui font travailler du monde, et qui ont besoin d'une infrastructure. C'est du capitalisme.
Ça veut dire que tout le monde sauvage, est complice. Ça veut dire que tout le monde est complice du banquier au chef d'entreprise et partout ailleurs.
Oui, on peut dire ça. Enfin, tout le monde n'est pas complice, si vous voulez. Il y a quand même certaines grandes institutions comme HSBC, par exemple, qui a été complice du blanchiment de l'argent de la drogue au Mexique. Et vous trouvez des agences HSBC partout en France.
Hein. Jean-Yves Leloi, on va poursuivre évidemment cette conversation. On va parler politique, de ce que peut faire Peña Nieto, le président mexicain. Avant, je voudrais qu'on aille faire un aller-retour justement à Mexico. Bonsoir Ludovic Bonleu.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste, Ludovic. Vous avez fait 4 documentaires déjà sur cet état du Guerrero, dont un d'ailleurs qu'on pourra probablement voir bientôt. D'abord, j'ai une curiosité. Comment on fait pour travailler dans ces états-là? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous, journaliste, vous pouvez y rentrer, ou est-ce qu'on est dans des zones qui sont quasiment des zones de non-droit?
Alors, le Guerrero en lui-même, c'est un état assez grand dans lequel, selon les moments, on peut accéder à certaines zones. Ça dépend. En fait, vous pouvez toujours aller à Acapulco, donc la station balnéaire qui est très connue, même si qui est devenue une des villes les plus violentes au monde. Mais par contre, vous avez des zones comme en Tierra Caliente ou dans la Montaña, qui sont certaines zones plus reculées où justement on cultive le pavot, où c'est très difficile de rentrer. Et où en général, il faut rentrer avec une escorte. Alors après, la condition de journalistes ou de documentaristes, ça dépend aussi de son lieu d'origine. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain et qui prennent énormément de risques, et plus de risques encore que les étrangers, non, qui vont y travailler.
Je voudrais qu'on écoute un témoignage qui nous permettra de comprendre ce que ça veut dire, en fait, que cette violence au Mexique, et qui montre le règne de la terreur dans cet état de Guerrero. L'homme que vous allez entendre est professeur dans la ville de Chilapa, et on expliquera pourquoi cette ville de Chilapa est importante. Voilà ce qu'il dit, et ça se passe vraiment de commentaires.
Il y a des villages entiers qui sont abandonnés, des communautés déplacées parce que la violence s'étend. Dans le cas du village de San Felipe, les habitants avaient demandé à la mairie de réparer la route. Le cartel de la familia s'y est opposé. Et ils ont menacé les habitants, ils ont enlevé l'ouvrier qui réparait la route et ont emmené les machines. Puis ils ont fait irruption dans le village pour prévenir les habitants qu'ils allaient revenir pour les tuer. Ils sont arrivés le lendemain matin et ils ont ouvert le feu. Il y a eu 4 habitants blessés. Et c'est comme cela que tout le village est parti se réfugier dans la ville d'à côté, à Apaxtla. Ils sont partis sans rien emporter, avec ce qu'ils portaient sur eux, parce que la seule chose qui comptait, c'était de sauver leur vie. Soit ils partaient, soit les autres revenaient les tuer. Les criminels gagnent du terrain et les autorités sont complices ou passives. Nous, les populations, sommes à la merci des cartels. Comment pourrions-nous les affronter? Nous n'avons aucune chance. Dans ces villages, on voit les champs abandonnés, les récoltes à moitié faites, les animaux qui errent à la recherche de nourriture. C'est comme si les êtres humains s'étaient évaporés. Je dirais presque comme la combustion spontanée. Tous les habitants ont disparu.
Voilà, on ira dans le village de Chilapa tout à l'heure. On était à San Felipe del Ocote ici, 450 habitants. Ludovic Bonleu, ça veut dire que toute l'économie d'un village se retrouve abandonnée. Que deviennent ces gens?
Effectivement, alors il y a beaucoup de déplacements internes. C'est-à-dire que les gens, ils essaient d'aller dans d'autres villages quand la violence se fait trop forte. Parfois, ils partent aux États-Unis, parfois, ils partent dans d'autres États. Mais effectivement, il y a beaucoup de villages abandonnés ou semi-abandonnés.
Et des, dans la région. Et des habitants, dit-on, qui s'organisent en ce que vous appelez là-bas des polices communautaires. Est-ce que c'est un vrai phénomène ou pas?
Bien sûr. Alors, les polices communautaires ont fleuri depuis une vingtaine d'années et se sont énormément développées dans la région. Et en fait, ce sont des citoyens donc, qui essaient de lutter contre les narcotrafiquants et aussi contre l'État lui-même qui peut être allié avec les trafiquants, les représentants de l'État fédéral comme l'armée, etc., ou la police régionale. Ils essaient de lutter contre eux pour se défendre. Et en fait, ils essaient de s'organiser sur des bases communautaires, d'assemblées basées sur la démocratie directe indigène. Ils essaient de combattre contre les narcotrafiquants, mais en même temps, c'est une cible de toutes les manipulations possibles. Et donc, il y a beaucoup de ces polices qui deviennent, au fur et à mesure, des organes paramilitaires qui servent les mêmes narcotrafiquants, comme on l'a vu à Chilapa, dont vous mentionnez le témoignage de José Diaz, qui va arriver plus tard.
Oui, qu'on écoutera dans un instant. Jean Rivelois, ces fameuses polices communautaires, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est la seule solution, finalement, face à l'État, face à l'incapacité de l'État ou pas? Pour certains, apparemment, en tout cas dans certains villages.
Alors, ces polices communautaires, qu'on appelle des milices,
ouais,
sont évidemment la seule solution qui reste pour les habitants, parce qu'ils ne font plus confiance aux politiques, ils ne font plus confiance aux institutions de l'État, comme la police, et notamment la police municipale, qui est dans beaucoup de cas, dans beaucoup de villages, la police municipale travaille pour les narcotrafiquants. Donc la personne que vous interrogiez, là, elle disait que elle était à la merci des cartels. Ce qu'elle a oublié de dire, parce qu'elle n'a pas eu le temps, c'est qu'elle est également à la merci de la police qui travaille pour les cartels.
Ça veut dire que le diable se mord la queue, la police au service des cartels, les fameux polices communautaires infiltrées, elles aussi.
Nous ne sommes plus dans un problème de violence. La violence est la manifestation d'un système qui est fondé sur la corruption. La corruption engendre la violence. On peut acheter des policiers au Mexique. Les narcotrafiquants achètent des policiers comme les Mexicains achètent des policiers quand ils donnent ce qu'on appelle une mordida pour éviter d'avoir une amende à payer, si vous voulez. Donc la corruption est à la base du système politique mexicain qui fait que à un certain moment, lorsqu'il y a une rupture de pacte, comme c'est le cas à l'heure actuelle depuis 2007, eh bien, la corruption se transforme en violence ou vient en complément d'une violence qui est préexistante.
Je vous avais promis de vous emmener dans cette ville qui s'appelle Chilapa avec ce professeur qui raconte comment ça se passe. Il faut préciser que lui est parti et qu'il est désormais à Mexico sous protection policière. Écoutez ce qu'il a à dire.
Quand un cartel a pris le contrôle de Chilapa, il a aussi fait main basse sur l'économie locale, et pas seulement sur les cultures de pavot à opium et le narcotrafic. Les criminels ont commencé à séquestrer des entrepreneurs, des commerçants locaux, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à mes frères, qui sont entrés dans une communauté contrôlée par ce cartel, où ils ont été capturés. Le groupe criminel régnait en maître sur la ville. Ils exécutaient ceux qui se mettaient en travers de leur route. Par la suite, ils ont publié des listes avec le nom des personnes à abattre. C'était eux qui décidaient qui devait mourir et qui pouvait vivre. Sur ces listes de la mort, bien sûr, il y avait mon nom, mais aussi ceux de beaucoup d'autres habitants. C'était comme dans le roman de Gabriel García Márquez, Chronique d'une mort annoncée. Parfois, ils annonçaient quel jour ils allaient nous tuer ou comment, et ils le faisaient. Leur domination s'exerçait par la peur. Alors, la panique s'est emparée de la ville de Chilapa. Beaucoup d'habitants ont fui, ils se sont réfugiés ailleurs. Mais d'autres ont refusé de partir. Ils disaient qu'ils n'avaient rien fait de mal et ils ont été tués. Rien que dans ma rue, où je vivais avec ma famille, il y a eu 15 meurtres dans une rue de seulement 2 km. 15 exécutions qui portaient la marque du crime organisé. C'est affreux. Il est parfois difficile de croire ce que ces gens sont capables de faire, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils peuvent encore faire.
Ludovic Bonleu, et on posera la question à Jean Rivelois dans un instant, que faire, comment faire? On a l'impression qu'on est bloqué dans cette situation-là, que ni les autorités locales, ni les autorités de Mexico ne sont capables d'endiguer cette violence.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a justement des polices citoyennes qui se sont organisées et certaines d'entre elles marchent très bien. D'accord. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la cible de toutes les manipulations possibles. Et par exemple, si on regarde le cas de Chilapa, moi j'étais il y a une dizaine de jours, l'armée patrouille la ville, on a l'impression d'être dans une ville en état de siège, mais pendant les trois jours où j'y étais, il y a eu trois assassinats en plein jour, et on a balancé des corps, des corps atrocement mutilés. Donc en fait, on est dans une logique de terreur, ce serait une espèce de narcoterrorisme, une espèce de narcodictature où tout le monde est espionné tout le temps. Mais en même temps, on connaît les noms des représentants du cartel, on sait exactement où ils sont, on a leur téléphone, et les services de renseignement fédéraux pourraient aller les arrêter.
Ludovic Bonleu, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage depuis Mexico. Jean-Rivelois, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec Peña Nieto, le président mexicain qui a été élu, c'était en 2012, sur un programme de lutte contre cette violence? Est-ce que ça veut dire qu'il est sur un siège éjectable? Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut rien faire? Est-ce que ça met en danger son gouvernement? Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que la situation politique au Mexique est complètement bloquée et que les Mexicains sont face à un dilemme. Ils ont voté pour la démocratie en 2007. Mm-hmm. Ils ont eu la guerre contre la drogue, avec sa querelle de mort, avec la répression, les vengeances, etc. Ils ont voté en 2012 pour que la violence cesse. Ils ont voté Felipe Calderón. Felipe Calderón a continué la politique de répression de son prédécesseur. Et donc là, maintenant, ils ne savent plus quoi faire parce que la plupart des partis politiques de gouvernement sont compromis dans des affaires de trafic de drogue. C'est-à-dire que on ne peut pas gouverner au Mexique sans négocier avec les narcotrafiquants qui représentent une telle force qu'elle vient concurrencer la force légale de l'État, si vous voulez. Au niveau local, n'en parlons pas, parce que la police municipale est complètement dépassée par la puissance de feu des narcotrafiquants.
Juste une toute dernière chose, Jean Rivelois, est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer, j'entends bien que la situation est complètement différente, mais est-ce qu'on peut imaginer une trêve à un moment, quelque chose à l'image des FARC en Colombie, une trêve entre le gouvernement et les cartels, est-ce que c'est possible ou pas?
À l'heure actuelle au Mexique, non, parce que les cartels sont trop puissants, Et ils sont bien implantés localement et ils bénéficient, c'est ça qui est inquiétant, de plus en plus d'une légitimité sociale parce qu'ils se substituent à l'État pour faire de la redistribution sociale.
Jean-Rivelois, chargé de recherche à l'Institut de Recherche et Développement, avec nous dans Un jour dans le monde. Merci mille fois, merci aussi de l'autre côté de la ligne à Ludovic Bonleu et merci à Emmanuel Stills qui nous a ramené ces reportages du Mexique.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde nous emmène en Grèce. Il paraît que ça va mieux, que le chômage descend, c'est vrai, mais à quel prix seriez-vous prêt à être payé 3,50 € de l'heure? On verra ça dans un instant avec Angélique Couronis. Florence Paracuelos nous attend aussi. Dans un instant, Trump, saison 2, le shutdown, c'est fini. Alors Olivier Philips, Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne. Oui, c'est terminé depuis quelques minutes. Le Sénat vient de trouver un accord et j'ai une bonne nouvelle. Le standard de la Maison Blanche va sans doute rouvrir dans les prochaines heures.
Ah bah vous nous ferez écouter ça parce que c'était pas piqué des verres. Olivier, donc on se retrouve tout à l'heure. Et Jean-Marc Fauré, là, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Olivier Saint-Es, voilà. Fabienne.
Le monde à l'envers, un nouveau rendez-vous dans Un jour dans le monde, quand l'actualité est moins claire qu'elle en a l'air. Vous allez regarder.
On va se demander si les Kurdes, si les Kurdes aujourd'hui attaqués par les Turcs, sont sous bombardement turc, sont vraiment les gentils dans cette affaire.
Et on voit ça ensemble dans un instant. Neil Young sur France Inter, Art of God. Il s'appelle Neil Young, c'est un petit jeune qui démarre, Heart of Gold.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Sous les radars, Florence Paracuelos, vous nous emmenez d'abord, Florence, au Brésil.
Mais oui, le Brésil, son métissage, sa liberté sexuelle, c'est carnaval, Fabienne. Stop! On arrête tout, derrière ces clichés, la samba est triste. Jamais il n'y a eu autant de crimes homophobes au Brésil, pas loin de 400 en 2017, selon un groupe de surveillance des violences faites à la communauté LGBT. On pourrait dire que c'est pas grand-chose par rapport aux 62 000 homicides annuels, mais là on parle de gens qui sont tués en raison de leur préférence sexuelle. Les transgenres sont les premières victimes de cette violence homophobe. La présidente de l'association brésilienne des transsexuels en témoigne. Dans sa chair. J'ai pris 3 balles dans le corps. Il m'en reste 2. À 52 ans, j'ai survécu à tout ça. Si on considère que 10% de la population brésilienne est homosexuelle, que parmi eux, il y a 1% de transgenres, si on en tue chaque année 100 ou 200, alors on peut parler d'une éradication de cette population. Et c'est pas seulement de la transphobie, il y a une violence animale dans ce pays, voilà ce que dit cette femme. Les analystes estiment qu'il y a sans doute un lien entre la montée de cette violence et la montée en puissance des églises évangéliques. Il y a des shows, vous le savez, des télévangélistes qui assimilent l'homosexualité au diable au Brésil. Et ces propos, parfois, sont relayés par des politiques ultra-conservateurs, un hein, député l'an dernier a déclaré que Mickey Mouse était un infiltré gay créé pour pervertir les enfants. Un gros candidat à la présidentielle qui aura lieu à la fin de l'année a récemment dit qu'on pouvait frapper les jeunes homosexuels. Et puis, il faut le savoir, le maire de Rio est un ancien pasteur de l'Église universelle du règne de Dieu. Et signe de la crispation des mœurs, il a sucré la moitié des subventions au carnaval cette année. Samba triste, ça se confirme.
Et d'ailleurs, je vous le dis, on y sera très vite en reportage dans les écoles de samba, justement en manque de subventions à cause de semeurs évangélistes notamment. Allez, la chasse aux fake news est ouverte, Florence. Ça se passe en Italie.
Alors qu'en France, on annonce une loi contre les fake news, le gouvernement italien appelle les citoyens à signaler ce qu'ils pensent être de fausses nouvelles à la cyberpolice. Un système de boutons rouges sera facilement accessible sur le site de la cyberpolice. Une équipe spécialisée a été constituée pour analyser ces alertes et essayer de remonter la piste de la fausse info. Bon courage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en année électorale en Italie, élection générale le 4 mars. Tout le Parlement sera renouvelé. Il y a une place de Premier ministre à prendre. Dans un climat où, comme partout, les fausses informations sont de plus en plus distillées sur les réseaux et parfois reprises par les journaux italiens. Les journalistes feraient bien de vérifier leurs sources, selon le fondateur d'un site qui décrypte les fake news en Italie. Laura Boldini, présidente de la Chambre des députés à Rome, en a plusieurs fois fait les frais. La dernière fois, on a dit qu'un de ses neveux avait été embauché dans un bureau du gouvernement à 8000 euros par mois. Le neveu en question n'existait même pas. Et Matteo Renzi est persuadé que les fake news lui ont fait perdre son référendum de réforme constitutionnelle en décembre 2016. Il avait dû démissionner. Et figurez-vous, cette fois, il espère bien retrouver son poste au mois de mars.
Allez, ben, on y sera. Merci beaucoup, Florence Paracolos. À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et ce soir, c'est en Grèce que le reportage d'Un jour dans le monde vous emmène. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous donne la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine? À moitié pleine, d'abord, ce sont quelques chiffres. La Grèce va mieux. La preuve, les agences de notation viennent de rehausser sa note souveraine et la Commission européenne confirme cette embellie. La bouteille à moitié vide, c'est ce que vivent toujours les Grecs. Et bonjour à vous, Angélique Kourounis.
Bonjour.
Angélique, les grands indicateurs en soi, effectivement, ne mentent pas. La Grèce va mieux, c'est pas faux, mais à quel prix?
C'est nouveau mais bien réel. On voit de plus en plus des offres d'emploi placardées sur les vitrines des magasins dans les rues d'Athènes. Une première en 8 ans de récession. Daphné, étudiante de 22 ans, a répondu à l'une d'entre elles.
On avait un accord mutuel avec mon patron sur 4 jours par semaine, 8 heures par jour, 4 euros l'heure. Il n'a jamais tenu parole. Bien après, il m'a fait signer un contrat de travail pour 3,50 euros de l'heure. Moitié non déclaré. Et quand j'ai protesté et que je lui ai dit que ce n'est pas ce qu'on avait convenu, il a dit « Je ne me souviens de rien de ce que tu as dit ». C'est ce qu'il a répondu à tous ceux qui lui ont rappelé leurs accords conclus. « Je ne me souviens pas avoir dit ça ».
En fait, si le chômage est passé ces 3 dernières années de 29 à 22%, c'est que selon l'Institut du monde du travail, 53% des nouvelles embauches sont soit des embauches à temps partiel, soit des embauches dites de travail flexible d'une semaine réduite avec des salaires finaux de 200 euros par mois qui, eux, font baisser les statistiques. Nikos Melas, chercheur à l'Institut, ces baisses de salaire freinent toute compétitivité.
C'est incongru de vouloir créer un modèle nouveau qui soit compétitif avec des salaires de 300 et 400 euros. Ça n'existe pas. Ce n'est que des chimères dans la tête des gens qui imaginent ça. C'est insensé. Si tu payes quelqu'un 300 euros, il te donnera du travail et de la productivité à 300 euros. Pas plus.
En 2012, les créanciers ont imposé une baisse de 22% des salaires et indemnités de chômage, alors que les retraites ont baissé, elles, 14 fois depuis 2011. Résultat, des chômeurs qui touchent tous 360 euros par mois uniquement sur un an, alors que 73% sont des chômeurs longue durée. Actuellement d'ailleurs, un seul sur 10 reçoit une indemnité, et en bout de chaîne, cela donne 3,8 millions de pauvres en Grèce sur une population totale de 10 millions. Mais ceux qui ont un travail ne sont pas toujours payés. Au moins 400 000 salariés du privé, selon le ministère du Travail, sont payés entre 2 semaines et 6 mois de retard, voire pas du tout. Pour Pour le journal libéral Casimirini, ce chiffre serait même de plus d'un million. Stefanos, que nous avons rencontré dans un café, fait partie de ces salariés non payés.
Maintenant, je travaille dans un site web, 40 heures par semaine, à 400 euros le mois. J'ai commencé en avril et déjà, il me doit 1000 euros. Chaque semaine, c'est « je te paierai la semaine prochaine, je te paierai la semaine prochaine » et moi, j'attends toujours.
Sollicité plusieurs fois sur la question, le ministère du Travail a juste refusé de répondre à nos questions. Conséquence logique, les jeunes partent, c'est une véritable fuite de cerveau qui aggrave la situation.
Depuis 2009, 500 000 jeunes sont partis, tous qualifiés. C'est que le secteur public grec investit dans les universités et les parents en leurs enfants. Et au lieu de travailler, d'offrir au pays ce qu'il a appris, le jeune il s'en va à l'étranger. Ce qui reste, ce sont les non-qualifiés. Et lorsque tu vas pour un entretien d'embauche, il te dit « Ah, tu as fini des études à l'université. Désolé, mais vous êtes surqualifié. » Du coup, beaucoup de jeunes cachent leur diplôme et ne parlent pas des langues étrangères qu'ils connaissent.
Daphné a pris sa décision. Elle va partir à Londres.
Je ne vois pas ici mon futur. C'est pourquoi je vais partir à l'étranger pour de meilleures études, plus d'argent. Avec ces conditions, c'est impossible de rester en Grèce et je le regrette car j'aime beaucoup mon pays. Mais je suis désolée, survivre n'est pas une alternative.
Pourtant, le Premier ministre Alexis Tsipras semble sûr de lui. Le pays va sortir de la crise l'été prochain, assure-t-il, avec une croissance de 2,5%. Et il a même annoncé à la télé, à Noël, surprenant tout le monde, 1,4 milliard de mesures de soutien social en faveur des plus démunis au vu des performances budgétaires de 2017. Les agences de notation ont même rehaussé, il y a quelques jours, la note souveraine du pays. Pour Savas Robolis, professeur émérite à l'université Padion d'Athènes, ce discours est de la poudre aux yeux.
En 2010, il y avait 2 millions de pauvres. Aujourd'hui, nous sommes 3,8 millions. Et la pauvreté extrême, dont 1 million sur les 3,8 millions, est à moins de 180 euros de revenus par mois.
La crise a fait perdre au pays 700 000 emplois ces 5 dernières années et le PIB a chuté, lui, de 26%. Il faudrait donc une croissance de 3,5% pour que le niveau de vie des gens s'améliore réellement au quotidien. On en est très loin. Stefanos et Daphné sont sans illusion. Cette embellie ne fait pas partie de leur quotidien, comme plus de 92% des Grecs qui n'ont plus aucune confiance en leurs dirigeants politiques. Pourtant, des élections anticipées sont dans l'air à l'occasion du retour sur les marchés du pays l'été prochain. Mais ni l'un ni l'autre n'ont voté. Et tant qu'ils seront en Grèce, ils continueront de manifester.
Angélique Kouronis en Grèce pour Un jour dans le monde sur France Inter. Voici Tchèg, Survivor. Chegg, Survivor sur France Inter. On file aux États-Unis.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Sintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le lundi, c'est Trump, saison 2. Grégory Phillips, alors d'abord, vous n'êtes plus en shutdown.
Non, c'est la fin d'une crise politique qui aura duré finalement deux petits jours.
C'est décevant,
à
votre shutdown, si
minutes.
Je puis me permettre.
Oui, tout petit shutdown, oui. Toute petite fermeture des administrations fédérales américaines. À l'instant, les sénateurs ont trouvé un accord et ont voté, vous savez, ces rallonges budgétaires pour 3 semaines seulement. Hein. C'est une solution pour 3 semaines. Démocrates et républicains sont tombés d'accord. L'idée, c'est de leur donner un peu plus de temps pour parler à nouveau de ces Dreamers. Vous savez, ces jeunes migrants arrivés aux États-Unis avec leurs parents alors qu'ils étaient mineurs et trouver une solution pour eux. Mais en attendant, donc, les sénateurs sont d'accord pour financer à nouveau le gouvernement et les fonctionnaires vont pouvoir retourner au travail dans les toutes prochaines heures.
Donc 30 jours, puis on verra bien ce qui se passera derrière. On verra bien surtout si la Maison-Blanche re-remet son fameux répondeur. Il faut que vous nous racontiez quand même, parce que c'était assez drôle.
Oui, parce qu'en fait, ici à Washington DC, c'est évidemment là où sont concentrés un maximum de fonctionnaires fédéraux, et notamment ceux qui travaillent à la Maison-Blanche. On avait mis au chômage technique 1 millier de fonctionnaires sur les 1 700 qui travaillent sur Pennsylvania Avenue, et on avait mis au chômage technique notamment les standardistes. Écoutez le message répondeur qu'on entendait ce matin quand on appelait, comme moi, la Maison-Blanche.
Thank you for calling the White House.
Merci d'avoir appelé la Maison-Blanche. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous répondre aujourd'hui, car les démocrates refusent de financer le gouvernement, et notamment nos troupes militaires, ainsi que d'autres priorités de sécurité nationale. Les démocrates prennent le gouvernement en otage par un débat sur l'immigration. À cause de cette obstruction, le gouvernement fédéral est fermé. En attendant, vous pouvez toujours laisser vos commentaires au président sur notre site internet. Nous espérons pouvoir répondre à vos appels dès que le gouvernement pourra rouvrir.
As soon as the government reopens.
C'est ça, parlez après le bip, allez-y.
Voilà, donc normalement les standardistes de la Maison-Blanche devraient être de retour, allez, ce soir ou demain matin, en tout cas parce qu'on est en Amérique et dans la capitale fédérale, eh bien les commerçants ont joué de cette situation avec pas mal d'humour. Dans plusieurs bars et restaurants, on vous offrait depuis vendredi soir un verre ou une réduction si vous aviez une carte de fonctionnaire fédéral, histoire de remonter le moral à tout le monde, parce que les fonctionnaires n'ont pas été payés pendant ces 2 jours. Mon préféré, c'est le Capital Lounge, à 2 pas du Congrès, je ne sais pas si vous connaissez Fabienne, qui depuis vendredi proposait des shutdown cocktails à 5 $, et le bar a même revisité sa carte des cocktails en leur donnant des noms à la pointe de l'actualité. Le Command Chuck, vas-y Chuck, du nom de Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate au Sénat, ou encore le Affordable Beer Act, qui reprend l'acronyme de l'Obamacare. Tout ça pour 5 $ si vous étiez un employé fédéral.
Alors il y a quand même d'autres effets collatéraux assez bizarres après un shutdown. Il paraît qu'en 2013, ça avait provoqué un baby boom, c'est vrai ou pas?
Oui, mais alors le shutdown de 2013 sous Obama avait duré beaucoup plus longtemps. Il avait duré un peu plus de 2 semaines, 16 jours. Et oui, 9 mois plus tard, eh bien, il y avait eu un mini baby boom dans la région de Washington DC avec environ 30% de naissances en plus par rapport à un mois normal. Les fonctionnaires mis au chômage technique en avaient profité pour faire des bébés. Là, on a eu 2 jours d'interruption du gouvernement. Honnêtement, je suis pas sûr qu'on verra un baby boom dans 8 ou 9 mois.
Et vous savez ce qui s'était passé pendant le shutdown de Bill Clinton, Grégory?
Dites-moi, Fabienne.
Eh ben, Monica Lewinsky traînait toute seule dans les couloirs, et c'est une histoire vraie, et on sait comment ça s'est terminé. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà.
Grégory, merci.
Le 18-20, Fabienne Sintès. Sur France Inter.
18h55 dans Un jour dans le monde et sur France Inter. La chronique de Jean-Marc Four. Nouveau rendez-vous dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, tous les soirs, vous allez mettre le monde à l'envers parce qu'on va chercher un peu au fond des choses la réalité qui est souvent moins limpide qu'elle en a l'air. Ce soir, nous allons chez les Kurdes qui sont bombardés dans le nord-ouest de la Syrie depuis samedi par les Turcs. On parle de 54 morts pour l'instant, c'est pas fini. Des Kurdes donc injustement attaqués par les Turcs et lâchés par la communauté internationale. Vous dites, Jean-Marc, que c'est plus compliqué. D'abord, on parle de qui? On parle de quel Kurde? Parce qu'il y a Kurdes et Kurdes.
Oui, quand on dit Kurde, en fait, on n'a rien dit. C'est tout le problème de la question kurde. Bon, déjà, on ne sait pas très bien combien ils sont, hein, les Kurdes. 30-40 millions, il n'y a jamais vraiment eu de recensement. Et pour cause, parce qu'ils sont répartis entre 4 pays, Turquie, Irak, Iran, Syrie, sans oublier la diaspora dans le monde. Et ça ne forme pas un tout homogène. Il y a des systèmes d'allégeance très divers. Ici, c'est une tribu, là, c'est un parti. Et il y a 3 langues distinctes. par-dessus le marché. Les plus nombreux sont, notez-le, ceux dont on parle le moins, puisqu'il y en a 12 millions en Turquie et 8 millions en Iran. L'Iran, où ils font d'ailleurs l'objet d'une répression systématique. Et ceux dont les médias causent sont donc les moins nombreux, mais les plus importants en poids stratégique. Les Kurdes d'Irak, 5 millions environ, qui ont formé, on le sait, une entité politique autonome. Et ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les Kurdes syriens, 1 à 2 millions sur un territoire vaste, mais sans continuité territoriale réelle. C'est la bande nord de la Syrie, vous voyez, ça s'appelle Rojava. Et d'ailleurs, on peut noter au passage que cette bande nord à dominante kurde, elle a été donnée, annexée à la Syrie il y a près d'un siècle, en 1921. Et tout ça, Fabienne, je vous le donne en mille, a été fait à l'époque. Par qui ?
Par nous,
par les Français. Bon, en tout cas, tout ça n'est donc pas homogène. Et la preuve, c'est que les Kurdes syriens ne s'entendent pas bien avec leurs voisins kurdes irakiens, par exemple, pour les reporters qui vont là-bas franchir la frontière qui existe de facto entre le Kurdistan irakien autonome et le Rojava kurde syrien, ce n'est pas chose aisée. Et puis en plus, le parti kurde syrien, le PYD, qui contrôle l'essentiel de la zone, n'est pas non plus un modèle de virginité.
Alors quand même, Jean-Marc, ce sont bien les Kurdes, et vous m'arrêterez si je me trompe, qui ont combattu, qui ont fait reculer Daesh, qui ont vaincu même parfois Daesh quand l'armée régulière syrienne prenait ses jambes à son cou.
Oui, vous voulez dire que je pousse un peu. C'est vrai, je pousse un peu. Bon, c'est une façon de faire comprendre en effet que la réalité, c'est rarement aussi simple que les gentils contre les méchants. Et donc, c'est vrai, ils ont fait le sale boulot contre le groupe État islamique, celui que, en gros, les Occidentaux n'ont pas voulu faire, c'est-à-dire aller se faire tuer au sol, à Raqqa, par exemple, pour déloger des djihadistes prêts à mourir. Ils ont fait le sale boulot, mais ils n'ont pas pour autant les mains totalement propres, et on a le droit de le dire aussi. Le groupe kurde dont nous parlons, ce sont les YPG, acronyme pour Yekineyen Parastinagel, Unité de protection du peuple. Et en 2014 et 2015, deux rapports de Human Rights Watch et Amnesty International ont quand même parlé à leur sujet d'arrestations sommaires, de procès arbitraires, de crimes de guerre, avec à la clé des villages rayés de la carte. En plus, leur parti de tutelle, le PYD, est un parti hégémonique qui aime bien gouverner seul, entre tradition marxiste et ultranationalisme. Et dans le cas du canton d'Afrin, qui fait donc aujourd'hui l'objet des bombardements turcs, nous parlons d'une zone qui est une sorte d'enclave de satellite très excentré du territoire kurde. Nous sommes à l'extrême nord-ouest, cette fois, de la Syrie. Une zone dont les Kurdes ont pris le contrôle, alors qu'elle n'est pas sa majorité kurde.
Et donc, tout ça nous autoriserait à les lâcher en race campagne.
Bon, d'abord, si on est cynique, ça ne serait pas la première fois qu'il y aurait des retournements d'alliances dans l'histoire des relations internationales. Si la fidélité aux alliances existait, ça se saurait. Et on sait très bien que derrière les discours, les convocations d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, l'arrière-cuisine, elle, est beaucoup plus prosaïque. Donc après tout, effectivement, au motif que la réelle politique, c'est plus efficace, et au motif que les Kurdes ne sont pas blanc-bleu, on pourrait effectivement se dire qu'on peut les lâcher. Et c'est là où, pour finir, je retourne le raisonnement. Mmh. Eh bien non, il ne faut pas les lâcher. Pour deux raisons. D'abord parce que, à tout prendre, même s'ils ont aussi des choses à se reprocher, ce sont quand même les plus gentils ou les moins méchants du lot dans la région. Les seuls, en tout cas, qui soient porteurs de valeurs démocratiques, comme par exemple l'égalité homme-femme. Et ensuite, parce que laisser faire, ce serait entériner un peu plus encore le fait que le trio Ankara-Moscou-Téhéran fait désormais ce qu'il veut dans la région. Et ça, si on peut éviter, c'est pas plus mal.
Jean-Marc Four, qu'on retrouve désormais du lundi au mercredi dans Un jour dans le monde. Si la Terre était plate, Jean-Marc, vous iriez voir ce qu'il y a dessous. C'est ce que vous ferez donc tous les jours.
Avec plaisir.
La suite du 18-20, c'est Sébastien Paour et le téléphone sonne. On met les pieds dans le plat. Tiens, ce soir, on va ouvrir le débat GPA. Ce soir, celui qui n'est pas dans la loi biotique, mais dont tout le monde parle. À tout de suite, restez avec nous.